Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat et une très bonne fête des pains sans levain. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les a vues et les délaisse obtient miséricorde. Vous trouvez ça dans Proverbes chapitre 28 et le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les a vues et les délaisse obtient miséricorde. Et quand on regarde cette écriture, ça prend toute sa signification dans la période pré-Pâques, dans la période juste avant la Pâques. Quand nous examinons et quand nous avouons nos péchés à Dieu. Maintenant, nous sommes à la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain, c'est aussi notre part pour lutter, pour sortir du péché. Et nous allons regarder, si vous voulez bien, Corinthiens chapitre 5 et le verset 7. Corinthiens chapitre 5 et le verset 7. L'instruction de la part de l'apôtre Paul pour nous. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte, c'est quelque chose qui est malléable et nous devons être malléables dans les mains de Dieu. Une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, physiquement, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Pureté est traduit dans d'autres traductions, Martin, entre autres, le Martin, Ostewald et le Derby, par sincérité. Donc, avec les pains sans levain, de la pureté ou de la sincérité et de la vérité. Nous sommes conscients que l'Église de Corinthe avait beaucoup de problèmes spirituels, tout au moins dans un premier temps. Et les gens de Corinthe, enfin, beaucoup de gens en Corinthe, étaient connus pour le fait de fabriquer la poterie. Mais par la même occasion, et ça ne nous étonne pas non plus, connaissant l'histoire de Corinthe, il y avait beaucoup de marchands malhonnêtes. Il y avait beaucoup de marchands malhonnêtes qui exerçaient ce métier. Et ça arrivait, bien sûr, quand vous fabriquez une vase, une poterie, quelque chose, il peut y avoir une faille, il peut y avoir des fentes. Donc, il y avait des potiers qui trompaient les gens parce que lorsqu'il y avait une fente, ils la couvraient avec, ils la réparaient, entre guillemets, avec la cire. Les acheteurs qui étaient prudents pouvaient regarder, par exemple, une vase, si c'était une vase, et pouvaient la regarder à l'aide du soleil. Regarder, tourner la vase vers le soleil pour voir s'il y avait justement des fentes, des failles. Un petit peu le même principe que des rayons X à notre époque. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot traduit en français par pureté ou bien sincérité, la racine en grec, la racine de ce mot, veut dire juger par la lumière du soleil. Juger par la lumière du soleil. Et effectivement, c'est ce qu'ils pouvaient faire. Et des marchands honnêtes, justement, disaient que le vase ou le portrait était sincère. Aujourd'hui, j'arrive au titre de ce sermon et j'ai voulu vous parler de la fête de la pureté. La fête de la pureté, parce que nous sommes à la recherche de la pureté. Nous sommes maintenant au milieu de la fête des pains sans levain. C'est la fête de la pureté, c'est ce qu'on vient de voir dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Physiquement, nous avons enlevé le levain de nos maisons, mais il s'agit aussi d'enlever le levain mentalement et spirituellement. Et en plus d'éliminer le péché, nous devons le remplacer par de bonnes pensées et de bonnes actions. Nous commençons en enlevant nos péchés, mais nous mangeons aussi du pain sans levain. On remplace le levain par quelque chose de positif. Et Dieu veut que nous tendions vers la perfection, que nous recherchions la perfection dans notre vie, et tant que nous sommes des êtres humains, nous aurons toujours de quoi faire, nous aurons toujours un travail considérable devant nous. Parce que les pains sans levain, c'est aussi la lutte dans nos vies qui continue. Nous sommes encore humains, nous nous rappelons ce que Paul, l'apôtre Paul a dit, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Si l'apôtre Paul a dit, je suis charnel, vendu au péché, nous avons la même nature que Paul, et il faut être conscient que qui nous sommes et ce que nous sommes. Parce que nous pouvons encore et toujours chuter. Monsieur Armstrong disait, peut-être vers la fin de sa vie, Monsieur Armstrong disait assez souvent, veillez. Il nous mettait en garde, il disait veillez. Et nous pouvons constater, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être dans l'Église, qui n'ont pas veillé, avec les conséquences qu'ils ont eues, qu'on voit. Nous sommes un édifice spirituel. 1 Corinthiens chapitre 6, je ne m'y rapporte pas, 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19 parle de votre corps et le temple, c'est pour qui parle, votre corps et le temple du Saint-Esprit. Ailleurs, Paul parle de spirituellement, pas spirituellement, mais collectivement, que l'Église est aussi le temple du Saint-Esprit, et que collectivement et individuellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et du fait que nous sommes un édifice spirituel, cet édifice est en train d'être construit. Et nous regardons, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, où on parle justement de ce bâtiment, qui est en train d'être cet édifice spirituel, l'Église de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. La fondation, le fondement d'un bâtiment est essentiel et très important, comme on le sait. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus, nous avons donc le choix comment nous allons construire. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire et fondement immuable. Mais il faut donc être en harmonie avec Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit, il y a un choix ici. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Évidemment, il y a ici du matériel qui va être purifié s'il y a du feu, l'or, l'argent, donc les pierres précieuses vont aussi résister, je pense, mais il y a d'autres catégories qui vont être brûlées, du bois, du foin et du chaume. Donc l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si vous regardez Nombre chapitre 31, à partir du verset 22, verset 22, le verset 23, là aussi je lis seulement, il s'agissait, le contexte, c'est l'armée des enfants d'Israël qui est revenue après avoir fait la guerre contre Madian, et il fallait qu'ils soient purifiés. Et la Bible dit ceci, tout objet qui peut aller au feu Vous le ferez passer, ça c'est dans Nombre, chapitre 31, verset 22, verset 23. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Il y a évidemment des objets qu'on peut faire traverser, enfin qu'on peut mettre dans le feu, qui vont être purifiés, d'autres, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas l'eau de purification qui sera purifiée. Tout ce qui ne peut aller au feu, vous le ferez passer dans l'eau. Pour revenir à 1 Corinthiens chapitre 3, il y a deux catégories, comme nous avons vu. Il y a une catégorie qui va être purifiée et d'autres qui va brûler. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement subsiste, parce que c'est de bon matériel, il recevra une récompense. Et nous sommes conscients que les épreuves sont faites pour lui purifier, pour lui faire mûrir spirituellement, dans le but de nous purifier. Évidemment, personne n'aime être mis dans le feu ou traverser le feu. Évidemment que c'est difficile, mais Dieu veut qu'on construise son caractère. Verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais, verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il va brûler, il ne va pas être purifié, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, parce que Dieu est miséricordieux, il sera sauvé, mais comme au travers du feu, c'est un autre feu. Alors, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et il faut que nous soyons saints, il faut que nous soyons purs, que nous devenons plus saints, que nous devenons plus purs, et de construire donc avec des choses qui sont pures, des choses de valeur, pour reprendre l'or, l'argent et les pierres précieuses. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça avant, mais la fête des pains sans levain, la fête des pains sans levain, c'est aussi l'avenir. C'est l'avenir, c'est notre avenir, et c'est l'avenir du monde, parce que ça va être un autre monde. Déjà, nous voyons dans Apocalypse chapitre 21, verset 18, Apocalypse chapitre 21, verset 18, il parle ici de la Nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux et de la Nouvelle Terre. Et nous voyons que le mot pur revient ici. On retrouve le mot pur, verset 18. La muraille a été construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Donc la pureté est soulignée ici. Chapitre 22, verset 1. Et me montre un fleuve d'eau de la ville, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Dans le matin, on dit ceci. Puis il me montre un fleuve pur. Parce qu'avec Dieu, tout est pur. Et ici, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre, tout sera pur. Mais il me montre un fleuve pur. D'eau vive, transparent comme du cristal, qui sortit du trône de Dieu et de l'agneau. Je reviens à Apocalypse 21, verset 8. La fête des pains sans levain, c'est aussi l'avenir, parce qu'il y aura la pureté. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, le passe dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui vont pécher, vont garder le péché, vont rester dans le péché, ils vont être détruits. Il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus de péché à ce moment-là dans l'histoire de l'humanité. Et l'humanité va passer à autre chose. Apocalypse 22, verset 14. Pourquoi je parle de ça pour la fête des pains sans levain? Tout simplement parce que nous avons besoin de garder nos yeux sur l'avenir. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, et vous allez, nous voyons ici l'importance de laver nos robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes, enlever donc ce qui n'est pas bon, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. C'est ceux qui lavent leur robe, ceux qui ont lavé leur robe et qui vont entrer par les portes de la ville. Il y a un passage parallèle à ceci que je ne me rapporte pas, mais que nous trouvons dans Apocalypse 7, le verset 14, qui donne un peu plus de précision à propos de ce lavement, si je puis dire. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies. Ils ont lavé donc leurs robes, comme on a vu dans Apocalypse 22. Mais c'est précisé, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils sont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est grâce au sacrifice du Christ, grâce au sang de l'agneau. Et ce faisant, on peut respirer la pureté. Apocalypse chapitre 1, juste un passage avant de quitter l'Apocalypse. Apocalypse 19, le verset 7. Apocalypse chapitre 19, et le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Ce moment formidable à l'avenir. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Voilà que nous trouvons encore cette conception de pureté, d'un fin lin éclatant, pur. Et la Bible précise, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres qui sont justes, qui sont pures, c'est ce que nous devons rechercher, nous individuellement. La dernière sermon que j'ai donnée en ligne, j'ai cité 2 Corinthiens chapitre 6, et j'ai voulu revenir sur cette écriture que j'ai citée par rapport aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 6, c'est le verset 18, où il est question de cette relation entre Dieu et nous, cette intimité. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, Dieu dit, je saute au milieu d'un contexte, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est le plan de Dieu, que nous devenons les enfants de Dieu. Nous adoptons, c'est pas dans le sens que Dieu va adopter nos valeurs, c'est nous, les enfants de Dieu, nous adoptons. Nous prenons les valeurs de Dieu. C'est le plan de Dieu. Nous avons donc à ce moment-là l'intimité, cette relation forte qui existe entre Dieu le Père et ses enfants. Et bien entendu, la vie éternelle dépasse l'entendement pour un être humain. Pour nous, êtres humains, il faut lutter pour prendre, pour épouser les valeurs de Dieu, les normes de Dieu. Et puis ensuite, nous avons le chapitre 7 de la verset 1, ça continue. Dieu parle donc d'une certaine façon de son plan. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puis le chapitre 7, verset 1. Ayons donc, puisque Dieu nous donne ses promesses, ayons donc de telles promesses, bien-aimées, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Tout le sens de la fête des pains sans levain. Et nous avons entamé ce processus. Purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte du Dieu. La sanctification, donc, le fait de devenir de plus en plus saint, et bien sûr, ça doit être un but fondamental de notre vie de chrétien, le fait de devenir de plus en plus saint. Avant la Pâque, nous nous sommes examinés. Nous avons, je pense, trouvé des choses que nous devons changer. Et quand nous nous sommes repentis, Dieu nous a pardonnés. Il ne faut pas oublier que, en tant que ce soit nous, que ce soit des gens qui ne sont pas dans l'Église, Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu voit nos péchés. Dieu voit nos lacunes, nos faiblesses qui nous font pécher. Et bien sûr, Dieu voit nos égarements que nous avons tous. Dans le psaume, dont on a parlé un petit peu hier soir, psaume 24, le verset 3. Psaume 24, et le verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusque son lieu saint? On devait rechercher à monter à la montagne de Dieu, de se rapprocher de Dieu. Qui s'élèvera jusque son lieu saint? Et la réponse est donnée dans le verset 4. Celui qui a les mains innocentes et, encore une fois, le cœur pur. C'est celui-là qui peut aller vers Dieu, qui peut monter à la montagne de l'Éternel. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Dieu veut que nous soyons saints et ça comporte le fait de purifier, bien sûr, nos mains, nos actions et nos cœurs, nos motivations. Ça commence dans le cœur. Et si nous regardons, si on analyse un petit peu le verset 4, on se rend compte que pour être, si on est pur, nous n'allons pas justement mentir. Si le cœur est pur, nous n'allons pas mentir. Et nous pouvons employer ce principe pour d'autres domaines. Si notre cœur est pur, nous n'allons pas tricher. Nous n'allons pas chercher à enduire un autre être humain en erreur. Nous n'allons pas être hypocrites. Nous n'allons pas chercher à faire du mal. Et nous n'allons pas méditer de faire du mal. Dans un mot, nous allons éviter de pécher, tout au moins dans ces domaines-là, dont il est question. Donc, il faut comprendre, il nous importe de comprendre qu'il nous faut construire la caractère de Dieu dans nos vies. Et les pains sans levain, la fête des pains sans levain, nous aide à être conscients de ceci, de construire la caractère de Dieu dans notre vie. Le verset 15, je vais pas terminer avec le psaume 24, le verset 5 nous donne un résultat. Celui qui a le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper, le verset 15, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Il y a un résultat quand on se comporte de cette façon. Dieu nous a montré sa miséricorde en nous pardonnant avant la Pâque, mais nous voyons que la miséricorde de Dieu aussi est liée avec le fait d'avoir un cœur pur. Avec le fait d'avoir un cœur pur. J'ai voulu vous donner deux exemples. Deux exemples qui montrent à quel point un être humain, ou des chrétiens, donc je vais donner un exemple dans le Nouveau Testament, peuvent changer. Mais même sans l'aide de Dieu, sans la conversion, je devrais dire, un être humain peut changer. J'ai voulu vous donner un premier exemple avec l'Exode. J'ai voulu vous montrer ce que les gens étaient, comme ils étaient avant, et ensuite, comme ils étaient après le changement. Si vous regardez Deutéronome, regarder tout le contexte maintenant, mais si vous regardez Deutéronome, vous verrez à plusieurs reprises que Moïse, il savait de quoi il parlait, comme les enfants d'Israël ont péché. À quel point ils étaient difficiles. Je vous donne un seul passage, Deutéronome chapitre 31, verset 27. Moïse qui disait les choses directement. Car je connais ton esprit de rébellion et la froideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, parce qu'il était aussi lucide, Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Ça, c'est Deutéronome, chapitre 31, et le verset 27. Vous n'avez pas besoin de vous rapporter. Mais on va regarder psaume 106, parce que ce psaume 106 nous donne un certain nombre de détails supplémentaires. Psaume 106, et le verset. On va regarder le verset 7 pour commencer. Les enfants d'Israël, à cette époque-là, en sortant d'Égypte, étaient un peuple rebelle, souvent très difficile. Moïse le savait. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelaient pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer, déjà au commencement. Près de la mer, près de la mer Rouge. Juste après la sortie d'Égypte. Verset 13. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise. Voilà notre problème. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Verset 16. Ils se montraient dans le camp jaloux contre Moïse. La jalousie peut être assez répandue parmi les êtres humains, par moi. Jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel, la terre s'ouvrait engloutie d'Athan, et elle se renferma sur la troupe d'Abiram. Un feu embrasa la troupe, la flamme consuma les méchants. Ensuite, ça continue, la liste est longue. Verset 19, ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant l'image de fonte. Ils échangeaient leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, le Sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Et puis, donc, nous voyons ici un peuple souvent rebelle, un peuple difficile. Et nous connaissons l'incident avec les espions. Et que Dieu a dit à ce moment-là que tous ceux qui avaient plus de 20 Oui, tous ceux qui avaient plus de 20 ans n'allaient pas entrer dans la terre promise. Ils ont emmené l'Égypte dans leur cœur et ils ne plaisaient pas à Dieu. Mais cette histoire, et c'est ça qui est formidable, cette histoire, parce que tous ceux qui avaient moins de 20 ans, Dieu a gardé en vie et ils sont entrés dans la terre promise. Cette histoire avec cette génération rebelle n'était pas perdue sur leurs enfants. Les parents peuvent être méchants et les enfants justes. Et vice-versa. Vice-versa. Et ici, il y a une autre génération qui était différente de la génération de leur père. Et nous trouvons dans Nombre chapitre 27, Nombre chapitre 27, je voulais vous montrer Il y a un petit verset qui est très, très éloquent. Nombre chapitre 27, le verset 1. Alors, on va commencer à lire à partir du verset 1. Nombre chapitre 27. Les filles de Tselotchad, fils de Hefer, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, les familles de Manassé, fils de Joseph et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles étaient courageuses parce qu'elles étaient jeunes, elles avaient moins de 20 ans puisqu'elles sont entrées dans la terre promise par la suite. Elles dirent, notre père est mort, mais très lucide, à propos de cette génération dont je viens de vous parler. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. Non, ils n'ont pas fait ça au moins. Mais, elle a dit quand même, elles ont dit quand même, mais il est mort pour son péché. Et moi, je trouve cette phrase formidable parce qu'elles ont identifié, elles étaient jeunes pourtant, hein, mais elles ont dit identifier le fait que leur père, et donc toute cette génération-là, avait péché. Mais il est mort pour son péché. Il n'avait Et il n'avait point de fils. Bon, là, c'est l'histoire de l'héritage. C'est l'histoire de l'héritage. Mais elles ont identifié le péché. Verset 4. Pourquoi le nom de notre père sera-t-il retranché du milieu de sa famille puisqu'il n'avait point eu de fils? Il y a 5 filles là. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Elles étaient courageuses, ce n'était pas la rébellion. Logiquement, elles étaient orphelines de père et de mère, parce que leur mère certainement avait plus de 20 ans, donc elle devait mourir aussi dans le désert, c'était pas déjà mort. Et Dieu entend, verset 5, Moïse portait la cause devant l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselotchad ont raison. Tu leur donneras un héritage, une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alors nous allons retrouver plus précisément Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa, et on les retrouve dans Josué. Dans Josué chapitre 17, le verset 3. Josué chapitre 17, verset 3. Donc, vous avez moins de 20 ans, parce que sinon on n'aurait pas pu entrer dans la terre promise. Elles sont un peu plus âgées maintenant. Et elles sont entrées dans cette terre promise. Josué chapitre 17, verset 3. Nous voyons ici donc, Tselotchad, fils d'Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles, dont voici les noms. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes, en disant, l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. La terre promise, et l'Éternel, c'est intéressant même le langage ici, dans le verset 4, l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage. On en parlait de Dieu. Très conscient qu'il y avait Dieu, très conscient que ça venait de Dieu. Elles étaient donc beaucoup plus tournées vers Dieu. L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. On le donna selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Donc, plus une génération désobéissante, au contraire, une génération qui obéissait. Et la mentalité de cette génération-là, la génération qui a suivi, la génération qui est sortie d'Égypte, on voit par exemple Josué chapitre 1, verset 16. Ils avaient vraiment, vraiment une autre attitude. L'obéissance n'était pas un problème. Verset 16. Il répondait à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. C'était des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils avaient changé d'attitude. Ils avaient vraiment, vraiment changé par rapport à leurs parents qui sont morts dans le désert. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il était avec Moïse. Et ils sont même allés plus loin, verset 18. Tout homme qui se rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Vous regardez Josué, c'est un livre très positif. Toutes les conquêtes que Dieu a effectuées pour eux parce que le peuple coopérait. Bien sûr, vous me direz, oui, mais il y a Achan, Ai, il y a l'incident avec Gabon. Mais Ai et Gabon n'étaient pas indicatifs de l'esprit général qui existait parmi cette génération-là. Josué, chapitre 24, verset 15. Ils n'étaient pas, c'est une autre génération, ils n'étaient pas coupables des iniquités de leur père. Et du reste, Dieu les a beaucoup bénis. Ils étaient purs dans leurs intentions. Ils étaient purs dans leurs intentions. Et Dieu était avec eux. Josué chapitre 24, le verset 15. C'est Josué ici, vers la fin de sa vie, il parle aux enfants d'Israël, il parle directement, ouvertement. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, évidemment, on a toujours un choix, ils avaient aussi un choix. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il donne cette possibilité. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays duquel vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, bien sûr, était fidèle jusqu'au bout. Mais ils avaient le choix. Et Josué leur a donné le choix, pour ainsi dire. Verset 15, verset 16. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée. Regardez l'attitude ici de cette génération. Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Là encore, une référence à Dieu. Très conscient de la main de Dieu, de la puissance de Dieu, de la réalité de Dieu dans les événements. C'est Dieu qui les avait fait vaincre, tous ces rois, dans le pays de Canaan. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères, c'est lui, on souligne le fait que c'est des dieux, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Et on devrait pouvoir dire la même chose, c'est que Dieu nous a fait avancer, de nous a délivrés, de nous a aidés dans nos vies, et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, toujours référence à Dieu, il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoréens et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, de notre côté si vous voulez, nous aussi nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Il s'identifiait à Dieu, notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. C'est presque un défi qui le donne ici, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Mais ils insistent, ils n'abandonnent pas. Verset 21. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Et Josué dit au peuple, vous êtes témoin. Il les prend à témoin. Vous êtes témoin contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondent, ils sont très fermes à ce moment-là dans leur croyance, dans leur comportement. Ils répondent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, répète, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Ils insistent. Mais on voit ce qui est possible quand il y a un changement d'attitude. Et c'était vraiment une autre génération. Ça, c'est un exemple d'un peuple qui n'avait pas l'Esprit de Dieu pourtant, mais un autre exemple qui est aussi parlant, c'est l'église de Corinthe que nous avons vu tout à l'heure. Vous vous rappelez que le premier épître corinthien, il y avait beaucoup de problèmes. Paul parle des hommes charnels, il n'avait pas exclu quelqu'un qui vivait dans le péché, il y avait la division lors de la Pâque, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Il y avait l'orgueil. Nous sommes fous, c'est Paul qui dit. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Mais il n'avait pas enlevé le levain en tant qu'Église. Les fruits étaient là. Quand nous arrivons à 2 Corinthiens, le temps a changé. Et la confiance de Paul a changé aussi. Hein. C'est lui qui dit dans le chapitre 1, nous assistons de vos prières. C'est lui qui dit toujours, chapitre 1, car vous êtes fermes dans la foi. Ils avaient vraiment considérablement changé. Chapitre 6, je vous parle comme un mes enfants, parce qu'il avait confiance en eux maintenant. 2 Corinthiens chapitre 7. On en arrive à 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Très élogieux, il avait la joie. Il ne parlait pas comme ça avec le Corinthien au début, en premier épître. Il y avait un changement. Verset 7. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentit à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Il n'avait pas la joie dans le premier épître, quand il a écrit au Corinthiens dans le premier épître. Ici, il y avait un changement. Verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Mais si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas ce que vous avez été attristé, mais ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Il y avait un changement, ça a passé par le repentir, ils ont vu, ils ont compris, et il y avait du fruit. Ils ont éliminé le problème et il y avait donc une amélioration, un changement considérable. Ils avaient éliminé le problème, ils avaient éliminé le péché. Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, évidemment, tout ce que Dieu fait pour nous, quand on se repent, on se tourne vers Dieu, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Pour que nous puissions approfondir, développer cette relation avec Dieu. Verset 11. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification? Quelle indignation? Quelle crainte? Des fruits, donc, de repentir. Quel désir ardent? Quel zèle? Quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs. Que vous étiez pur dans cette affaire. Ça rejoint donc la fête de la pureté. Il y avait une abondance de fruits. Et il pouvait, ayant changé, il pouvait par la suite observer les fêtes des pains sans levain avec la pureté, en étant pur. Ils avaient vécu le plan de Dieu sur un plan personnel. Ils avaient éliminé, ils avaient changé un certain nombre de choses, et pas les moindres. Et nous voyons la recommandation dans verset 15, toujours chapitre 7, le verset 15, nous voyons cette recommandation. Il éprouve pour vous un redoublement, parlons de Tite, il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis, donc Paul qui parle de se réjouir, je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Chapitre 9, verset 1. Il parle de quelque chose de spécifique ici. Il est superflu que je vous écrive toujours touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière à ce zèle de votre part à stimuler le plus grand nombre. La bonne volonté. Le temps est très, très, très différent. Mais il reste lucide. J'y me rapporte pas. Je vous lis 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 20 et le verset 21. Même qu'ils avaient changé, qu'ils étaient vraiment, vraiment différents, donc l'Église, il dit ceci. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. Ça, c'est 2 Corinthiens 12, 20, il ne pas vous apporter. Verset 20, verset 21. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie. Vous voyez, donc il avait encore peur qu'ils retournent à ce qui, comme ils étaient avant. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne sont pas repentis de l'impureté et de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Ça, c'est une mise en garde. Parce que n'importe quel chrétien, même quelqu'un très converti, peut perdre sa conversion. Mais nous voyons aussi, c'est ça qui est encourageant, que tout est possible avec Dieu. Ils étaient purs dans cette affaire. Ils étaient purs dans cette affaire. 1 Jean chapitre 3, verset 1. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Je trouve que ces deux exemples montrent bien à quel point il est possible, avec la pureté du cœur, à quel point il est possible de changer. C'est la fête de la pureté. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc, le verset 1 définit notre famille, notre nouvelle famille, montre la portée de notre appel, que nous avons été choisis individuellement par Dieu le Père. Nous connaissons l'Écriture qui dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est un miracle. C'est un miracle. Dieu ouvre l'esprit, notre esprit à la vérité, à la compréhension de sa parole. Dieu nous accorde le repentir. C'est un don. Dieu nous donne le Saint-Esprit et nous pouvons être guidés par le Saint-Esprit. Donc, qui nous sommes passés dans une autre catégorie. Et c'est marqué, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Nous connaissons aussi l'Écriture qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ce qui est le plus précieux. Que le Christ était disposé à se sacrifier pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Verset 2, toujours 1 Jean chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Semblable à lui, un être spirituel dans la famille de Dieu. C'est tout à fait à notre niveau. Verset 3, « Quiconque à cette espérance d'être à un autre niveau dans la famille de Dieu. Quiconque a cette espérance en lui, dans nos cœurs, si je puis dire, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous connaissons les trois piliers de notre foi, la foi, l'espérance, la charité. Et on dit bien que l'espoir fait vivre. Et c'est important pour nous de garder cet espoir. Et c'est quiconque a cet espoir en lui se purifie. Nous faisons quelque chose parce que nous avons l'espoir. Nous comprenons bien que l'impureté spirituelle peut envahir n'importe quel aspect de notre vie. Dieu et l'impureté, nous comprenons bien que l'impureté donc, spirituelle peut envahir n'importe quel aspect de notre vie. Dieu est l'impureté, parce que le péché nous rend captifs. Le péché a le dessus dans nos vies à ce moment-là. Nous domine et nous réduit à un rôle d'esclave. Dieu veut que nous partagions son caractère, que nous soyons épanouis, que nous ne soyons plus un esclave. Et le caractère de Dieu, bien sûr, c'est la pureté et la sainteté. Ce n'est pas la saleté, ce n'est pas l'impureté. Jacques 4, 10 dit que « Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. » Et il faut une dose d'humilité pour reconnaître que nous sommes pécheurs. Alors, comment se purifier? D'abord, il faut rejeter le mal. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Pain sans levain. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice, 1 Pierre chapitre 2, verset 1, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Et se marquer toute malice, ça c'est devenir notre but, de rejeter toute malice. Il parle de ruse dans un premier temps, et toute ruse. Il faut que nous soyons purs dans nos motifs, nos agissements avec les frères dans l'église, avec les frères, nos sœurs dans l'église, avec nos prochains. Ne pas être tordu pour arriver à nos fins. La dissimulation est traduite ailleurs, pour d'autres traductions, par hypocrisie. L'hypocrisie, évidemment, quelqu'un qui est hypocrite, il n'est pas pur avec ses motifs. Et puis ensuite, il parle d'envie. Dissimulation, envie. Envie, peut-être, ce que notre prochain a. L'envie, c'est un des fruits de la chair. Et puis, médisance, et toute médisance. Médisance, Larousse définit médisance comme action de médire, de dénigrer quelqu'un, action de médire ou de dénigrer quelqu'un. C'est assez répandu à notre époque. Le Robert dit, dans toujours cette définition, enfin, définit autrement, dénigrement ou diffamation. Dénigrement, diffamation. À notre époque, les êtres humains ont souvent la critique facile. Je continue avec le verset 2. Donc, de rejeter d'une part, et ensuite, dans le verset 2, de désirer de l'autre côté. Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Le mot désirer, c'est un mot assez fort. Ailleurs, se traduit par chérir. Loue dans la définition désirer ardemment, attendre avec impatience. Et Strong's, mon anglais dit yearn, c'est languir ou aspirer. C'est un désir intense, voilà. C'est un désir intense. Je reviens au verset 2, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Nous avons tous entendu des tout-petits, des bébés, qui réclamaient le prochain repas auprès de leur mère et qui font énormément de bruit tant qu'ils n'ont pas eu satisfaction, si je peux dire. Beaucoup, beaucoup de bruit. Et ce n'est pas donc pour rien que Pierre, dans cette analogie, regardez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur de vraiment, parce que le bébé veut vraiment son prochain repas. Le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Avoir faim et soif de la parole de Dieu pour que nous puissions croire justement. Le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Colossiens chapitre 3, verset 4. Colossiens chapitre 3 et le verset 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire à notre époque, sans aucun péché, complètement pur. Verset 5. Faites donc, puisque nous aspirons, nous savons que le Christ va revenir, que nous allons rejoindre le Christ. Verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites donc, ça c'est notre travail. Et puis ensuite le verset 6, c'est à cause de ces choses, parce qu'il y a péché justement, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. On se débarrasse du vieil homme. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et de miséricorde. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Le premier, c'est de rejeter le mal. comme on vient de voir. Et le deuxième, c'est de remplacer par, remplacer les œuvres de la chair, par exemple, par les fruits de l'esprit. Encore faut-il avoir le courage de voir les œuvres de la chair chez nous, peut-être dans certains domaines. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Nous sommes une pâte nouvelle, il faut que nous soyons malléables dans les mains de Dieu. Et donc, de remplacer par les fruits de l'esprit. Ce qui compte, c'est que nous puissions développer ces fruits de l'esprit, entre autres. Et Dieu, bien sûr, va voir nos efforts et Dieu va nous bénir quand nous faisons un effort et quand nous lui demandons de l'aide. Éphésiens, chapitre 4, le verset 24. Éphésiens chapitre 4 et le verset 24. On revient sur l'homme nouveau ici. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge, première étape, renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Tous partis du corps du Christ. Satan est le père du mensonge. Satan détruit le caractère de saint. Il détruit le caractère de saint, le caractère saint qui est au-dedans de nous, si on lui permet de le faire. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère, c'est quelque chose de dangereux. La colère n'est pas bonne quand c'est pas maîtrisé. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ensuite, il y a une liste ici, le fait de rejeter le mal et le fait de se revêtir justement des choses qui sont de Dieu. Des fruits de l'esprit, des bons fruits. Alors, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, quelqu'un qui prend, c'est l'accent vers lui-même. Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est vraiment une bonne face, au lieu d'avoir de prendre pour soi. On cherche vraiment, vraiment à donner. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, on cherche donc à faire du bien avec nos paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, même si on nous fait du mal. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et nous connaissons le passage dans Philippiens 4, 8. Tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. C'est un immense privilège d'avoir une relation avec Dieu. De savoir qu'on se met à genoux, que Dieu nous écoute, c'est un immense privilège, mais c'est aussi une très grande responsabilité. Nous devons être concernés individuellement par notre croissance. La croissance, c'est individuel. Nous devons être concernés individuellement par notre croissance, de vivre le pain sans le vin, la fête des pains sans le vin sur un plan personnel, pour pouvoir ressembler de plus en plus à Christ, de marcher dans les pas du Christ, parce qu'il est notre modèle parfait. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans le vin de la pureté et de la vérité. Il nous appartient de méditer cette fête sur cette fête de la pureté pour devenir plus pur.